Radio Suisse Romande, espace 2, d'ici d'ailleurs.
Aujourd'hui, dans sa version Plume en liberté, avec la rencontre entre deux écrivains voyageurs, enregistrée le 10 octobre dernier à la Salle des Eaux Vives à Genève, pendant la fureur de lire. Plume en liberté, une coproduction d'Espace 2 et du Crédit Suisse, a connu ce soir-là une influence extraordinaire, due sans doute à la personnalité des deux invités, l'Écossais Kenneth White et Nicolas Bouvier, dont la popularité ici ne cesse de croître. Jean-Philippe Rapp leur a demandé comment ils s'étaient rencontrés. Nicolas Bouvier.
Ah, c'est un souvenir à la fois très cocasse et extrêmement plaisant. D'abord, moi, je suis très, très content que Kenneth ait pu venir ici ce soir. La première fois que nous nous sommes vus, c'était à l'occasion du Salon du Livre. Et la radio avait organisé entre nous une sorte de rencontre. Je n'avais pas lu une ligne de lui. Lui n'avait pas lu une ligne de moi. On a fait une excellente émission. À la suite de quoi, je suis tombé sur ces textes qui m'ont énormément plu. Et oui, parce qu'il s'est trouvé que lors de cette rencontre, on s'est trouvé d'accord sur une quantité de points qui me paraissent très importants et qui sont des points qui appartiennent à une certaine connaissance de l'état nomade ou de l'esprit nomade auquel Kenneth a consacré un livre très important. Suite à ces lectures, je lui ai écrit une lettre. Je crois que cette lettre, il ne l'a jamais reçue. Je viens de la publier et je vais la lui lire. Je vais la lui lire en guise de bienvenue. Cette lettre a un mérite, elle est assez courte. Colonie, le 2 mai 88. Cher Kenneth, je reprends complète une lettre commencée voici bientôt une année. Ici, le ciel est comme une éponge lumineuse, le pré vert rizière, les pivoines ligneuses déplient en hâte, il fait encore frais, leurs innombrables dessous roses cancans. Météo et journée tout à fait japonaise où j'ai traînassé dans mon jardin et dans ma tête, en effaçant dans ces deux lieux toute trace de mon passage. Je m'étais donné congé, et le sabbat doit être un jour blanc. Quel temps fait-il à Treburden? Et qu'en pensent le chardon du Tibet et la rose d'Écosse? La première fois que j'ai entendu ton nom, c'était lors d'un séminaire à Trinity College en 78. J'avais lu des pages un peu hallucinées sur le Nord-Japon, où j'étais allé me perdre quelques années plus tôt dans les brumes, les tourbières, les grèves désolées, les ombelles géantes. Ajoute, si tu y tiens, quelques gros chevaux noirs et trois lugubres collégiens en uniforme à boutons de laiton, mais pas plus. J'aime beaucoup ces pays faits avec presque rien. Les étudiants m'ont dit « Connaissez-vous Kenneth White? Il y a dans vos manières de rôder comme un air de famille. » Le même soir, ces étudiants ont jugé le moment venu de faire la révolution. Dans ce réfectoire solennel que tu connais sans doute, on attend devant un bouillon clairet et une bière sans alcool qu'un des élèves ait dit les grâces du haut d'une chaire qui n'a, je crois, aucune autre fonction. Au lieu de quoi, la jeune personne installée là-haut a tenu des propos subversifs dans un mégaphone et la salle s'est aussitôt transformée en chaudron bouillonnant. Les professeurs nous ont fait sortir, ma femme et moi, par une porte dérobée et un escalier en colimaçon où les mutins nous ont enfermés dans les rires. Nos escorteurs ont en hâte retiré leurs toges et leurs toques et négocié notre libération à travers un trou de serrure. Puis nous sommes allés dîner dans un restaurant turc où il y avait du vin turc presque noir qui frôlait les 14 degrés. Que Dieu bénisse cette jeunesse. Le lendemain, il tenait toujours le terrain, sans pierre, ni banderole, ni barricade, et je suis allé discuter avec mes élèves de la veille, qui n'avaient, m'ont-ils avoué, aucun motif de se plaindre. Les profs étaient excellents, le campus un rêve de gazon, la nourriture passable pour l'Irlande, mais depuis le temps qu'ils entendaient parler de mai 68, ils avaient eu envie de s'y mettre, comme des danseurs de province à un quadrille qui aurait fait fureur dans une lointaine métropole. Ainsi, ton nom s'est d'emblée trouvé lié à cet épisode ludique et cocasse, qui t'aurait beaucoup amusé. De retour en Suisse, j'ai lu des rives, et j'ai dérivé, quoi de plus profitable, dans une Angleterre que je connais mal, une Écosse que je ne connaissais pas, une Provence que je connais bien sans cependant connaître la demoiselle qui fait tout le prix de cet épisode. Où est-elle? Habite-t-elle toujours ce monde trompeur? Ne me fais pas languir. J'aime beaucoup qu'on me promène et me suis retrouvé à l'endroit où l'auteur dit « je » à l'instant même où je lisais. Chez ces anarchistes flamands un peu allumés, lecteurs d'Ouspensky qui refont le monde entre deux filles engrossées ou deux siestes, et se font des peurs délicieuses chaque fois qu'on frappe à leur porte, police, alors qu'ils savent bien que les quelques joints et les quelques tracts néo-guévaristes qu'ils cachent dans les fissures de leur terrier vermoulu ne les enverront pas aux galères. Ils font donc semblant. Le droit de faire semblant doit être défendu jusqu'à notre dernière goutte de sang. Non ? J'ai relu cet après-midi « Jour de sabbat entre deux plantations de zinnia et de tagette » que Jéhovah condamnera donc à l'échec, quelques pages prises au hasard dans tes bouquins, et j'ai retrouvé chaque fois ce que je souhaitais dans un texte. Ni glose, ni commentaire, une écriture de Primso, précise et turbulente, un « Dasein », une saisie de l'instant, si piteux soit-il, quasi inconditionnel, et du sel sur la langue. Quand je dis ceci, je me dis qu'il faut que l'esprit soit salé comme un hareng sort pour nourrir avant de pourrir. Au Japon, quand tu reviens d'une cérémonie funéraire, on te jette une poignée de sel avant que tu ne franchisses le seuil de ta maison. Que le ciel nous sale donc sans merci, et s'il néglige de le faire, je garde, prudence de l'âge, un peu de sel sous ma langue, comme la pièce d'argent qu'on mettait dans la bouche des morts pour qu'ils paient le passage du Styx. J'ai aussi reconnu dans ces textes une denrée qui m'est précieuse et familière et que j'ai, en termes de supermarché, emportée tout de suite. L'émerveillement, l'usure, l'agacement, l'érosion, très bien ça. L'apprentissage du peu qui naissent de la condition nomade. Aucun besoin qu'il s'agisse du transsibérien ou d'un voyage planétaire, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour se perdre. Les grands voyages, les miens en tout cas, ne sont jamais qu'une succession de petits mis bout à bout comme des tickets de métro, mais dans quelle lenteur et quelle joie dans la lenteur. Il peut s'agir d'une marche sous le crachin entre deux villages d'Écosse où personne n'a souci de vous accueillir, où l'on voit palpiter quelques parapluies retournés par le vent au bout d'un horizon maussade, où, dans le pub enfin trouvé, les vestons de tweed fument, les haleines sentent le tabac et la bière, où tout grommelle dans un quotidien consternant, mais le monde, une de ses innombrables modalités, est là. Et je me dis simplement, c'est donc ainsi. J'aime bien me dire, c'est donc ainsi. Et c'est ainsi peut-être, je te cite, ce monde d'arbres blancs, il est là devant moi, bouleau dans le gel, nu, présent, vivant, patient. Je pense aussi à ces instants où le déplacement dans l'espace nous a réduits à presque rien. Comme l'oignon dépouillé de toutes ses plures, on se retrouve blanc et fragile dans un froid boréal ou sous un soleil de plomb, recru, fourbu, complètement démuni. On abaisse sa garde, on reçoit en vrac coups et fardeaux, routes et déroutes confondues. Instant furtif où le monde apparaît comme une polyphonie, où nous avons cette minuscule partition à jouer que nous connaissions du jour de notre naissance. Je t'adresse et te dédie celle-ci. 40 ans que tu rêvais de ce lieu, que tu rêvais de ce lieu, tranché fertile dans le sable rouge infini, ce soir, c'est une tonnelle d'ombre bleue où l'eau bruit sans se laisser voir, le jour exténué, le corps fourbu, les yeux brûlés, la peau séchée devant, s'y retrouve et conspire en secret. La chanteuse a les yeux cernés de fatigue. J'aime beaucoup cette musique d'assassin. Un coup d'archet strident tranche une gorge. Sitar et clarinette saignent en grappes de groseilles tièdes. La voix de cette femme, rêche, bourrée de sang, elle module et se plaint. Elle éteint les étoiles. Tout est désormais plaie et douceur, Tourfan, Turkestan chinois, 20 juillet 84. Restons en Orient où les mystiques soufis parlaient de réunir les oiseaux en congrès et de convocation du monde. Je n'ai pas le pouvoir de convoquer le monde, mais peut-être celui de me rendre à quelques-unes de ces convocations. Il faut pour cela une liberté intérieure et une mobilité de belette derrière laquelle je cours à perdre haleine depuis le jour où pour la première fois j'ai quitté ma maison. Mobilité et disponibilité intérieure, car il ne s'agit pas de kilomètres. Confucius disait « Un voyage futile de 1000 lis commence sous votre chaussure ». Et il est bien probable que le monde nous convoque exactement à l'endroit et à l'instant où nous vivons. Tout de même, une vie très mobile m'a permis, grâce à quelques naufrages, de brader le plus clair d'une cargaison dont je sais aujourd'hui qu'elle était plus encombrante qu'utile. De laisser au bord de la route quelques oripeaux dialectiques, schémas trompeurs, syllogismes foireux et les pédanteries de la certitude. Mais j'ai encore trop de chiens-dents dans la tête pour ne pas souhaiter partir. Ce matin du 3 mai, je suis dans mon jardin. Il a plu cette nuit, le ciel lavé est d'un bleu tendre, les plantons mis hier en terre ont déjà relevé la tête, et le Christ lui-même ne pourrait pas leur faire le coup du figuier stérile. Les escargots, toutes cornes au vent, galopent vers les plantes citrouilles, mais je les ai à l'œil. Merci.
Avant de donner l'occasion à Kenneth White de lui répondre, je rappelle que ce texte fait partie de L'échappée belle, éloge de quelques pérégrins de Nicolas Bouvier qui vient de paraître. C'est à vous. Alors voilà, vous avez, cette fois, la lettre est parvenue.
Oui, bon, le dernier mot que Nicolas a prononcé, c'est merci. C'est bien sûr le premier mot que je prononçais. Merci. Et j'aime beaucoup une phrase de René Char qui disait « Dans mon pays, on dit toujours merci ». J'aime bien cette phrase. Donc si je regrette un peu, Nicolas, que cette lettre ne soit pas parvenue par le courrier dans ma boîte aux lettres sur la côte nord de la Bretagne en 88, je le regrette un peu parce que tout de suite j'aurais répondu. Donc tu aurais eu une lettre en réponse. Disons que ce n'est que partie remise et peut-être que la prochaine fois qu'on se rencontrera, c'est moi qui te lirai une lettre. Cela dit, je suis peut-être encore plus content que cette lettre trouve sa place dans un livre. Dès les débuts de ce que j'ai essayé de tenter en littérature, je me suis dit qu'il fallait quand même essayer de réduire la littérature, qui est quelquefois un mot un peu gonflé, un peu creux malheureusement, quelquefois rempli de choses dont on pourrait se passer. J'ai toujours pensé qu'il fallait essayer de réduire la littérature à des lettres, c'est-à-dire à une communication directe, immédiate. Quant à l'épisode irlandais, effectivement, je ne savais pas qu'une certaine activité que j'avais autour de 67-68 avait eu des répercussions telles en Irlande. C'est vrai que entre 63 et 67, moi je m'activais juste de l'autre côté de l'eau, à Glasgow. Et les nouvelles ont dû se répandre effectivement du côté de Dublin. À ce moment-là, j'étais en train de fomenter quelque chose que j'appelais la révolution culturelle. Je croyais avoir inventé le mot, je ne savais pas que Mao l'avait fait. Je dis tout de suite que ma conception de la chose n'était pas du tout celle de Mao. Pas du tout. Donc je me suis beaucoup activé là-dedans avec un groupe, avec une revue, et c'est peut-être effectivement ces choses-là qui sont arrivées en Irlande. En 67, après avoir fait ce que je pensais avoir à faire en Grande-Bretagne, je suis arrivé en France en 68. Automne 67. Et bien sûr, j'ai continué exactement le même travail, avec le résultat que je me suis trouvé écarté tout de suite en juin 68 de l'Université française. Mais ça m'a donné l'occasion de contempler longuement, encore plus longuement, les Pyrénées, donc c'était une très bonne chose. Voilà donc pour la situation historique, une certaine situation historique. Moi, j'ai quitté la Grande-Bretagne parce que la situation intellectuelle, culturelle, poétique, littéraire, effectivement, me semblait un peu creuse. Mais je voudrais quand même, puisque tu m'as lu une lettre, je voudrais te dire que dans un de mes livres, peut-être même avant qu'on ne se soit connu ou tout de suite après, J'ai utilisé au moins une phrase de toi en épigraphe dans un livre, La Route Bleue. Je n'ai pas ce livre devant moi, mais c'est une belle phrase de toi, tirée, je pense, des chroniques japonaises,
oui. Hein, oui.
J'ai utilisé en épigraphe pour un chapitre de La Route Bleue. Mais peut-être en réponse et pour continuer notre cheminement, je voudrais peut-être te lire, puisque tu as évoqué beaucoup le Japon, et c'est un territoire qui t'est cher et qui t'est bien connu, je voudrais te lire le début d'un autre de mes livres de cheminement, d'itinéraire, qui s'intitule « Les signes sauvages ». Signe, c'est l'oiseau, mais si on veut lire S-I-G-N-I-S, je n'ai pas d'objection. C'est un peu, dans ce sens-là, c'est un peu anti-Barthes, si je puis dire, en passant. Voici donc le début des signes sauvages qui se passe au Japon. C'est un voyage de Tokyo au Hokkaido, à l'île septentrionale du Japon. Depuis quelque temps, l'idée mûrissait dans mon esprit d'une virée au Japon, qui serait un pèlerinage géopolitique de plus, un hommage aux choses du Japon, choses précieuses et précaires, et un voyage haïku dans le sillage de Basho, un récit rêveur de route et d'île, un plongeon elliptique dans le vide. Bref, un petit livre nippon extravagant, plein d'images et de pensées zigzagantes, écrit dans le style blanc volant, comme disent les peintres. Après cela, me disais-je, je me terrerai dans mon observatoire cosmologique de la côte bretonne pour travailler au prochain cycle et arpenterai les chemins côtiers encore peu fréquentés, vêtus de vent, de pluie et de silence. Cet automne-là, je me sentais prêt et avais tracé un itinéraire approximatif. Je prendrai Tokyo comme point de départ et me dirigerai ensuite vers le nord pour atteindre enfin le Hokkaido. Assis dans ce café à l'aéroport de Paris par un matin ensoleillé de septembre, j'avais quitté la veille mon bel ermitage breton. J'étais attentif aux sons japonais que j'entendais tout autour de moi, en particulier ceux que proférait une longue fille au visage lunaire, et j'ai laissé quelques souvenirs littéraires du Japon me traverser l'esprit. Le soleil couchant de Dazai, Rugetsu, le professeur de haïku dans la nouvelle de Nagai Kafu, la Sumida. Le jeune étudiant de Kawabata qui marchait seul sur la péninsule d'Izu et rencontrait un groupe de danseurs, à les entendre parler d'Oshima, mon cœur s'emplit de poésie. Sol nippon, littoral et montagne, golf, baie, promontoire, terre volcanique, convulsée, ravagée, lavée par le vent et la pluie, par les marées et les brouillards, par un jeu vaporeux d'eau, de brume et de soleil, torrents fougueux, cascades et feuilles rouges. Je voulais m'immerger dans tout cela, dans l'énergie et le rythme et la lumière de tout cela. Et je voulais, si possible, voir les cygnes sauvages venus de Sibérie s'abattre avec leurs cris d'outre-terre sur les nacs du Nord où ils viennent hiverner. Oui, voilà ce que je voulais. Vol pour Tokyo, porte 17. Je précise que ce que je viens de lire n'est pas tout à fait de moi. Moi, j'écris ces livres en anglais, j'écris les livres de poèmes en anglais. Je n'écris que les essais en français, et cette traduction est due à Marie-Claude White, la traductrice donc du livre. Je tiens à le préciser.
Dans la lettre que lisait tout à l'heure Nicolas, moi j'ai retenu une phrase dite d'ailleurs par les étudiants, il y a dans vos manières de rôder comme un air de famille. En quoi vous vous retrouvez, en quoi vous avez différé dans vos démarches d'écrivain voyageur? Peut-être Nicolas d'abord.
Oh, je pense que ce qui nous a beaucoup rapprochés lors de notre première rencontre, c'est apparu avec la plus grande clarté, c'est la lenteur de la flânerie. Nous ne sommes pas du tout ni des aventuriers, ni des explorateurs, nous sommes des flâneurs. Ça peut être à long cours ou à moyen cours, peu importe. Ce n'est pas du tout une affaire de kilomètres, comme je l'ai dit. Et ce qui m'a tellement plu, c'est que précisément, dans des textes sur Glasgow, que je ne connaissais pas, qui sont pour Ken une province tout à fait familière, il y avait une façon d'être attentif au monde, une sorte de ce qu'il a appelé très joliment présence plénière, qui, à mon sens, chez les bons flâneurs, est la même partout. Que vous soyez à Carouge ou à Surabaya, il y a une façon d'être attentif aux toutes petites choses dans lesquelles il excelle. Et moi, ces toutes petites choses m'intéressent aussi beaucoup et je trouve qu'elles sont souvent beaucoup plus révélatrices que les musts culturels ou architecturaux qu'on peut trouver sur la planète. Moi, je préfère aller me faire raser en plein vent à Shanghai que de voir une pagode de plus, parce que des pagodes, j'en ai vu. Je suis étourdi de Satori, donc un barbier cocasse, comique, ou une soupe prise au coin d'une rue m'en apporte plus. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ces textes, c'était, et où je me suis senti très proche de lui, c'était cette attention à des détails minuscules et à des gens souvent très humbles et qui ont ce mérite immense de nous faire très souvent rire. Le rire étant une marchandise pour moi qui se paie à prix d'or.
Et pour vous? Bon, d'abord, c'est bien sûr tout à fait ça. C'est des mots comme flâner, et peut-être encore plus, peut-être un mot qui a été prononcé par Nicolas tout à l'heure, rôder. J'adore ce mot-là. Rôder, c'est encore plus rugueur, rudeur. Hein. Et je m'appelle, une des premières fois que je suis venu en France, j'ai entendu un petit gars de 12 ans dire dans la rue qu'il aimait rôder les rues. Il disait rôder les rues et frôler les filles. Un garçon de 12 ans.
Mais ils sont précoces.
Je me suis dit, quelle culture. 12 ans. c'est ça. Et effectivement, Nicolas parlait de Satori, mais il sait tout aussi bien que moi que c'est Satori, c'est-à-dire ce moment de, bon, illumination, c'est un trop grand mot aussi, d'éclaircissement, de légèreté de l'être, peut avoir lieu, bien sûr, dans les endroits les plus ordinaires et risque d'avoir lieu beaucoup plus dans les lieux ordinaires que dans les lieux supposés faits pour ce genre de choses. Effectivement, chez un barbier ou dans un café le long de la route, pas seulement en Orient, mais au nord, sud, à l'est et à l'ouest. Ce qui nous rapproche aussi, je pense que c'est une littérature qui a essayé de sortir de ce que moi j'aime appeler l'autoroute, la grande autoroute. Et une très grande partie de la littérature s'est beaucoup systématisée ces dernières années, à partir d'une analyse, quelquefois, de cette autoroute, mais en restant un peu trop sur les bords, en se contenant dans l'analyse, dans la critique, et presque quelquefois dans la critique aérie. Une littérature qui était, disons, bonne du point de vue critique, et quelquefois bonne du point de vue d'une analyse, mais qui laissait le lecteur que j'étais, et que Nicolas a été, que beaucoup d'entre nous sommes sûrement, sur notre faim. Et nous nous sommes intéressés, je pense, à des auteurs, à des écrivains, à des esprits, à des figures, à des cheminants, je suis en train de chercher les mots qui me conviennent le plus, qui donc ont quitté carrément cette autoroute et qui ont commencé à s'aventurer dans des espaces négligés par cette autoroute. Et pour moi, ça commence avec des gens à la fin du 19e siècle, c'est Rimbaud d'un côté, c'est Nietzsche de l'autre. Nietzsche, disons, mes frères, restez fidèles à la terre, ne vous laissez pas trop enfermer dans les idéologies, dans les systèmes, dans les structures. Restez fidèles à la terre, soyez vifs, soyez vigilants, restez tous les sens ouverts, les cinq, éventuellement un sixième, un petit sixième. Et Rimbaud qui disait, dégoûté d'à peu près tout ce qui se passait autour de lui, un dégoût total, un dégoût absolu, mais qui dit pourtant, si j'ai du goût, ce n'est plus guère que pour la terre et les pierres. Et pour moi, beaucoup de choses commencent à ce moment-là. Et autant, tout à l'heure, je disais que je sentais très tôt un dégoût et un refus d'une littérature trop analytique, trop systématique, trop structuraliste, trop structurée. Autant je ne me sens pas à l'aise non plus dans la simple réaction à cela. Il y a une simple réaction à cela aujourd'hui, et c'est le retour au bon gros roman familial, à l'aventure avec A majuscule, comment j'ai traversé l'Atlantique en tricyclette, ce genre de choses. Ça ne m'intéresse pas non plus. Il y a vraiment autre chose à trouver.
Nicolas, vous parliez tout à l'heure du Japon, du Nord-Japon notamment, hein, parce que ça c'est au moins une terre où vous vous êtes rencontrés de manière assez concrète, même si vous n'étiez peut-être pas en même temps et au même moment sur les lieux.
Eh bien, oui, c'est une très bonne rencontre, bien qu'on ne se soit jamais vu là-haut, mais c'est une terre que nous sommes très peu nombreux à aimer. Et même les Japonais répugnent beaucoup à se rendre au Nord-Japon parce qu'ils jugent que ça manque d'épaisseur historique. C'est une île qui a été effectivement occupée par des colons, parfois même par des convicts, et qui n'a évidemment pas le lustre d'une cité millénaire et impériale comme Kyoto. Mais moi, j'aime justement, après des indigestions de culture qu'on peut prendre dans le Japon central, j'aime justement cette pauvreté des paysages, et j'aimerais vous lire là-dessus un texte très bref où Kenneth reconnaîtra beaucoup de ses impressions. Ça s'appelle « Une dépression venue des Kouriles ». Mon train transporte sa cargaison de serpes, de haches aux tranchants bleus graissés, soigneusement enveloppés de toile, et de dormeurs au visage noirci par la fatigue, vite et tout droit à travers la nuit verte, car il a beaucoup plu sur les talus d'herbes tendres et sur les guérets qui bordent la forêt primitive. Et maintenant, puisqu'il s'arrête, penchons-nous un peu à la fenêtre. C'est une petite gare dans la nuit tombée, pleine de rouleaux de cordes, de sacs de sure et d'ombres fléchies qui circulent en déroulant ses cordes et s'interpellent en bâillant. Il y a des jours comme celui-ci où, quoi qu'on en ait, on ne voit que de pauvres gens faire de pauvres choses, où tous ceux auxquels on s'adresse ont l'air de ne pas vous voir et de compter mentalement jusqu'à 1000 en attendant que cela passe. Jour plus fuligineux et plus léger que celui, je le sais, je le sais. Je n'ai pas pu encore m'y faire. Depuis 24 heures, je vis des bienfaits d'un gros crabe mangé avant-hier, avec un peu de vinaigre, aussi frais que si j'avais été le requin. Me restent les 2 ou 3 000 yens qu'il me faut pour repasser le détroit de Tsugaru et rejoindre la grande île. L'argent manquant, peut-être va-t-il s'animer un peu ce voyage. Toujours, sauf au bordel, on paie pour que rien n'arrive, d'ailleurs même au bordel, pour ne pas dormir à la belle étoile, pour ne pas partager les récits, les délires et les puces d'un dortoir de docker, pour poser ses fesses, je l'ai fait avant-hier par fatigue, sur le velours inutile d'un compartiment, face à des usagers que l'éducation a rendus trop timides pour qu'ils osent ou qu'ils daignent vous adresser un mot. Nouvel arrêt, autre gare prise dans la grande banquise du sommeil bien avant Wakanai, que je n'atteindrai plus cette nuit. Comme la salle d'attente est glaciale et qu'il n'y a aucun endroit où s'attabler dans ce lieu qui n'est que tourbe noire défoncée, ombelle géante, amas de troncs équarris, tanières, corbeaux et phares isolés le long d'une mer toujours grise, je me suis installé derrière le guichet des billets sur le bureau du chef de gare qui, paraît-il, est allé manger chez sa mère. Le receveur qui lui est subordonné compte et recompte sur un boulier la recette de la journée en grignotant des noisettes dont il m'a offert la moitié. De temps en temps, il s'interrompt pour fracasser à coups de talon une vieille caisse de whisky Suntory et bourrer un petit poêle de fonte. Entre ces additions, il m'apprend que sur la ligne de Wakanai, les ours ont depuis le début de l'année tué 3 veaux, 1 cheval, 1 écolière et attaqué 2 ouvriers agricoles qui les ont fait fuir à coups de fourche. La radio diffuse un match de baseball à l'autre bout de l'archipel et qu'il n'écoute plus, étant maintenant aux prises avec une vieille en fichu venue plusieurs heures avant son train et qui semble n'avoir jamais pris de billet aller-retour. Elle s'inquiète, insiste, n'écoute rien des réponses qu'il lui fait. Qu'on soit ainsi assuré non seulement de partir, mais aussi de revenir, elle n'y croira que lorsqu'elle l'aura vu, la plupart de ceux qui sont venus s'établir dans cette île sans mémoire ne l'ont pas fait de leur plein gré. C'est d'ailleurs assez récent, cette certitude. Autrefois, les pauvres gens ne s'en allaient que contraints, le cœur gros, chercher leur pitance ailleurs. Souvent, ils devaient même s'endetter ou mendier pour partir, et compter en plus avec les peaux rouges, les loups, les icebergs, les diligences qui s'emballent, la peste noire, mandrin. D'où ce folklore déchirant des ports et des gares qui entoure encore trop souvent le moindre départ. Retour du chef de gare qui entre en polissant sa lanterne. Il est stupéfait de trouver cet étranger installé à sa table couverte de grimoires étalés. Il hésite un instant entre la cordialité forcée et la circonspection, s'en veut presque aussitôt de cette hésitation que j'ai perçue et cherche un moyen de m'obliger. Il téléphone pour m'obtenir la météo qu'il me récite de doigt levé. Ashtaga furisodes. Il a plu hier, pleut aujourd'hui, pleuvra demain. Une dépression venue des courils. Tant mieux, la pluie dans ce pays fait de si peu, c'est toujours un petit quelque chose de plus.
Alors, ces îles sans mémoire où vous n'avez pas rencontré Nicolas et vous l'avez rencontré tout de même?
Oui, on aurait presque pu se croiser au Hokkaido, dont il vient de parler, le chemin de la mer du Nord. Et c'est vrai ce qu'il dit à propos du Japon et le Hokkaido, que pour les Japonais, ça manque d'épaisseur historique, c'est un paysage pauvre. Et justement, ça nous fait rencontrer le propos général de nos rencontres. Ce que je sens aujourd'hui, c'est le besoin de beaucoup d'entre nous. Je crois que je peux parler au pluriel. C'est toujours difficile de savoir exactement à quel moment on peut s'arrêter de dire « je » et dire « nous ». C'est toujours très délicat. Mais je pense que beaucoup d'entre nous sentent le besoin de sortir de l'histoire pour retrouver une géographie. Bon, une géographie qui est à définir. Il y a eu plusieurs tentatives de la part des géographes, une géographie humaniste, géographie culturelle. Moi, j'aime bien parler en termes de géopolitique. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai que ces contrées, pour revenir à ces contrées, même à ces territoires, ont été écartés de la conscience. Le Hokkaido au Japon, moi je me rappelle que la première fois que je suis allé au Québec, avec l'idée de commencer à Montréal, comme toujours dans une grande ville, ensuite suivre la côte nord du Saint-Laurent vers le Labrador, les gens que j'avais autour de moi, écrivains ou pas, me disaient toujours, mais qu'est-ce que tu vas chercher au Labrador? Il n'y a rien là-haut, il n'y a rien. Et c'est justement c'est ça qui est intéressant. Là où il n'y a rien, on peut peut-être trouver quelque chose de nouveau, d'autre, au lieu de se sentir tout le temps étouffé, écrasé par système, accumulation, la plupart du temps pseudo-culturel plutôt que vraiment culturel. Et j'ai beaucoup aimé la phrase qu'a prononcée Nicolas, là où rien n'arrive, curieusement c'est une phrase que j'ai utilisée moi-même à la fin de ce livre « Les signes sauvages », et là encore un petit passage, pour dire que là où il n'y a rien, il peut y avoir l'irruption de l'inconnu. Voici donc l'arrivée de ces signes sauvages au Hokkaido, le même territoire qu'a évoqué Nicolas. Je suis donc arrivé jusqu'au nord, là, et j'attendais sur le bord d'un lac, parce que je savais à peu près quand les oiseaux allaient arriver, à peu près, 3 ou 4 jours près. Pendant les quelques jours qui suivirent, j'ai hanté ce lieu. C'était tellement beau sur le bord du lac. Le roseau, le calme, la clarté de l'air. Je longeais les rives ou m'allongeais sous un arbre et attendais. 2 jours passèrent, puis 3, puis 4, sans que rien ne se produise, comme dans le chant du corbeau Aïnou. Voici comment j'ai continué à vivre, jour après jour, sans que rien n'arrive. Je continuais simplement à marcher en silence autour du lac. Puis, au jour du 5e jour d'attente, attentive, dans le crépuscule bleu et rose, il y eut un grand cri dans l'air, un grand « ouh, ouh, ouh », suivi d'un brissement d'ailes. C'était comme le cri entendu autrefois sur la Méditerranée, « le grand paon est mort », mais dans le sens inverse. Soudain, le vide fut rempli de clameurs et de battements d'ailes. Ils arrivaient en groupe de 5 à 10. D'abord un groupe, puis un autre, puis un autre. J'ai attendu jusqu'au moment où il y eut environ 90 oiseaux sur le lac, puis je suis rentré à l'auberge pour dormir avec l'intention de me lever avant l'aube. Longtemps avant l'aube, j'étais aux aguets parmi les roseaux du lac, dans le marais jusqu'aux genoux à un certain moment, attendant le lever du jour. Ce sont les canards qui se sont réveillés les premiers, rasant la surface de l'eau dans une grande agitation, tandis que les cygnes dormaient toujours. Un miroitement, un frémissement sur les eaux bleues sombres, le vent dans les herbes dorées. Ce n'est que lorsque le soleil s'est levé que les oiseaux à tête blanche se sont réveillés, déployant leurs puissantes ailes et commençant à pousser un cri tantôt ici, tantôt là. Je suis resté tapi au milieu des roseaux à les regarder, à les écouter, puis l'un d'eux s'est élevé dans l'air, suivi d'un petit groupe, tous criant en chœur. Ils ont tourné, tourné. Ils ont tourné, tourné, tourné dans l'air vif et clair. Je les ai suivis des yeux et de l'esprit, sur le lac vide, ce matin du monde, les cygnes sauvages.
Si tout à l'heure je vous avais présenté en disant vous êtes un artiste nomade, est-ce que c'est une définition que vous auriez acceptée? Ou un écrivain nomade?
Oui, voilà. J'allais dire que le premier mot pour m'aurait peut-être gêné un tout petit peu. Moi, j'ai écrit un livre, L'esprit nomade, et c'est peut-être ça. Quand on se préoccupe trop d'être un artiste, quand on se dit trop je suis un artiste, ça ne marchera pas. Il y aura trop de self-consciousness, comme on dit en anglais, on sera trop conscient de soi. Tandis que, à mon avis, pour arriver aux choses les plus profondes, il faut se débarrasser de soi. Se débarrasser de soi artiste, se débarrasser de soi poète, surtout avec un H au milieu, poète. Il faut se débarrasser, il faut se débarrasser de tout cela. Donc, artiste nomade m'aurait un peu gêné, écrivain, c'est encore un mot qui couvre trop de choses aujourd'hui, vraiment trop de choses. Déjà Rimbaud, que j'ai cité tout à l'heure, disait à la fin du 19e siècle, beaucoup d'écrivains, peu d'auteurs. Et Rimbaud savait très bien le latin, et il savait que auteur vient de augeri auctum, qui veut dire augmenter. Donc un auteur au sens propre du mot, au sens profond du mot, c'est celui qui augmente notre sensation de vie. L'écriture ne fait pas toujours ça. La littérature ne fait pas toujours cela. Une très grande partie de la littérature ne vise que passer le temps, malheureusement. Donc, disons esprit. Hein, c'est le mot le plus léger, peut-être. C'est le mot qui respire le plus.
Hein. Esprit nomade.
Oui. Ouais.
Et vous? Comment
Moi, je suis assez d'accord que les flâneries, même si elles peuvent être parfois planétaires auxquelles on s'est livré, n'ont pas du tout un but acquisitif. C'est effectivement de se débarrasser d'une quantité de conneries qu'on porte dans sa tête. Et on voit d'ailleurs cet amaigrissement se produire dans le bagage physique. On part avec une valise qu'on croit réduite au minimum, et puis il y a des objets qu'on perd, soit par étourderie, soit parce qu'on se les fait piquer par des gens qui en ont plus besoin que nous, et on ne les remplace pas. On ne les remplace pas parce qu'on s'aperçoit qu'on s'en passait totalement. Alors, je pense qu'une des vertus du voyage, est notamment de la marche, quand on peut encore marcher, moi je ne peux plus, mais enfin, c'est de purger la vie avant de la remplir, enfin comme on nettoie une marmite pour faire vraiment une bonne soupe dedans, et qu'il y a cet effet amaigrissant qui est très salubre, et puis qui débarrasse la culture, au sens le meilleur du terme, de ses oripeaux académiques. Et c'est par exemple un véritable soulagement que j'ai ressenti en montant dans ce Nord-Japon, qui est assez moche, qui est assez triste, et où effectivement il ne se passe rien du tout. J'avais besoin de vide parce qu'à Kyoto, je faisais une véritable saturation culturelle, de culture académique. Il y a un proverbe à Kyoto qui dit « Jette une pièce au hasard, jette une pierre au hasard, tu blesses un professeur. » Bon, il y a vraiment des moments où ça n'est plus supportable de blesser chaque jour un professeur. Alors, on est content de se tirer dans des régions où il n'y a absolument plus rien. Et voilà un petit poème sur un coin du Hokkaido, qui est un très beau nom d'ailleurs en Ainu, qui s'appelle Oshiamambe, où il n'y a rien. Ne ferroviaire, que peut-on voir ici? Les ours, le bordel et la gare murmurent quelques voix sous des parapluies. Mais comme dans l'Ouest américain d'autrefois, la grande affaire, c'est encore le train, partout de hauts essieux rouillent sous les ombelles et des locomotives à cloches de bronze barbouillent ce dessin d'enfant bicolore. Entre les tas de tourbes, deux étudiants jouent aux cartes au bord d'une flaque. Il faut bien traverser cet été qui ressemble à l'automne ailleurs. Les chants, les guerres et vers répètent 1, 2, 300 corbeaux. Dites donc, cet endroit m'a l'air fait avec des restes. avec les chutes d'autres paysages mieux foutus. Mais ce qu'il a pour lui, ce qui me touche, ce qu'aucune indiscrétion ne pourrait lui prendre, c'est ce solide habit normand de l'herbe et là-dessus ces chevaux noirs qui me font oui éperdument avec la tête, se foutant du zen, tous pleins d'espoir et de projets. À la fenêtre du wagon, où 100 000 coups d'avant les miens ont fait briller ce bois comme de la soie, je pense à ma vie mal cousue, et quand le cœur me manque, ces chevaux noirs, je les regarde, ancrés dans les prés comme de lourds navires, leur chevalinité m'est un bienfait.
Oui, je crois effectivement que le voyage, le cheminement, l'itinéraire a un effet de, ce sont des mots que j'aime beaucoup, de désencombrement, de débarrassement, de déconditionnement. Et une des raisons pour lesquelles, sur le plan culturel, intellectuel, sur le plan de la vie, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'Orient, sans vouloir devenir un disciple d'un gourou, sans, comme disent certains, dès que vous vous intéressez à ces choses-là, on va vous planter plein d'étiquettes, vous êtes un gourou, vous êtes un zénifiant, etc. Foutaise. On peut très bien s'intéresser à ces choses-là en essayant de les transplanter tout à fait dans notre situation à nous, sans porter de vêtements spéciaux. Mais l'Orient s'intéresse profondément au déconditionnement. Nous avons eu tendance pendant longtemps à tourner autour de la condition humaine. Il y a eu de grands livres écrits là-dessus, des romans qui portent ce titre, et je n'ai pas besoin de préciser. On tourne autour de la condition humaine et peut-être qu'on a tendance un peu à touiller la même soupe, avec quelques ingrédients différents selon les moments historiques. La maladie va changer de nom, les ingrédients sociaux sont un peu différents, mais c'est toujours la même soupe. Ce qui était intéressant, ce qui m'a attiré profondément vers une certaine pensée orientale, c'était effectivement la possibilité du déconditionnement. Et il y a plusieurs moyens de le faire, et bien sûr il y a des pratiques spéciales pour cela. Moi j'ai eu tendance à les éviter, je n'ai jamais pratiqué le yoga, sauf si on considère, et en Inde on le considère, que la plus grande yoga c'est la poésie. Donc peut-être que je pratique profondément un yoga, au sens propre du mot. Je n'ai jamais fait des zazen, de méditation assise, mais dans le bouddhisme zen, le cheminement, le voyage, la marche est considéré aussi comme une méditation ambulatoire. Donc je me suis intéressé à ces pratiques, effectivement, d'une manière dégagée, pour arriver à une sorte de déconditionnement. Pour ce qui est de la poésie, je voudrais lire simplement un poème qui n'en est pas un, enfin, qui en est peut-être un quand même. Et c'est très court, et je le fais sans commentaire. Ce poème s'intitule « Matin des neiges à Montréal ». Certains poèmes n'ont pas de titre. Ce titre n'a pas de poème. Tout est là dehors. Sans commentaire.
Nicolas Bouvier, vous m'avez dit, lorsque je retrouverai Canette, je vais lui parler du Nord. Vous aviez envie de lui parler du Nord, vous disiez justement que c'était un homme qui évoquait pour vous le froid, le blanc, le Nord.
Eh bien oui, je crois que ce sont... Je crois que comme tout bon rôdeur ou tout bon flâneur, il parvient à se trouver à l'aise partout, mais toute sa production littéraire est plutôt axée sur ces valeurs très négligées que sont la neige, le froid, le nord qui, lorsque j'étais jeune, exerçait sur moi une véritable fascination et qui est un des points cardinaux injustement négligé. Parce qu'ici, nous vivons avec une météo qui est une véritable catastrophe et on ne rêve évidemment que de sud. Et ce que j'aime beaucoup dans l'œuvre de Kenneth, c'est cette présence du Nord. Pour moi, c'est un homme du Nord. Je ne sais pas s'il sera d'accord que je le range comme ça dans un tiroir.
Oh, c'est un grand tiroir.
Très grand tiroir.
Vous êtes un homme du Nord?
Oui, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais c'est vrai que le Nord a mauvaise réputation. C'est vrai, moi je vis dans un espace, dans un territoire en France, qui portait pendant longtemps le nom de Côte du Nord. Et certains maires, certaines autorités des bureaux du tourisme trouvaient que ça faisait très mauvais effet. Et qu'appeler ce lieu les Côtes du Nord, c'était faire fuir les gens. Donc, ils ont décidé de changer le nom de Côte du Nord, que personnellement j'avais beaucoup aimé, à Côte d'Armor, qui linguistiquement ne marche pas du tout. Les côtes de la mer, ça fait vraiment double usage. Mais enfin bon, ça existe ailleurs. Passons. Toujours est-il que, effectivement, le Nord m'a toujours intéressé, bon, pour des raisons évidentes, je suis né en Écosse, et bon, on est sur les bords, là, de tout le monde circumpolaire, tout le monde que les Grecs appelaient le monde hyperboréen, le monde du Nord et aussi au-delà du Nord. Et très tôt, en essayant d'approfondir la culture de ce pays qui avait été écarté, négligé, caricaturé par l'histoire, en l'approfondissant, je me suis rendu compte qu'une grande partie de cette culture, celte, pour ne pas le dire, parce que j'ose à peine prononcer le nom, parce que tout de suite on voit forêt de Bressé-en-Liande, on voit druide, on voit un tas de choses dont je n'ai rien à faire. Bon, je le dis quand même, je suis obligé d'utiliser le mot, mais une grande partie de cette culture a été empruntée à ce monde circumpolaire hyperboréen. Lévi-Strauss l'a beaucoup étudié, et c'est vrai que c'est le premier grand espace culturel, aire culturelle qui m'a attiré. Tout d'un coup, à partir de mes 10 km sur la côte ouest de l'Écosse, j'avais affaire à un monde immense, circumpolaire, c'est-à-dire que tout d'un coup, en étudiant dans les livres et en lisant des poèmes, sans parler des cultures matérielles, je voyais qu'il y avait des rapports extraordinaires entre poésie, art de l'Amérique du Nord, par exemple, que ce soit Inuit, Eskimo ou Amérindienne, culture sibérienne, culture du nord de l'Écosse, et on peut très bien aller du côté du nord du Japon et descendre du nord de la Chine très loin. Et je pourrais, si on avait une très grande table, qu'on était tous autour de la table, je pourrais mettre sur cette table un poème esquimau, un poème sibérien, un poème celte et un poème japonais, et on aurait du mal à les distinguer. Voilà ce qui m'intéresse, cette espèce de cheminement qu'on peut faire à partir de n'importe quel lieu. Tout le monde vit dans un lieu, et il faut essayer d'approfondir ce lieu. Moi je suis pour les lieux, je suis pour les localités, mais sans localisme, c'est-à-dire pour un approfondissement du lieu. Et à partir de n'importe quel lieu sur le globe, n'importe lequel, même le plus pauvre, même le plus négligé, en l'approfondissant, on peut tout d'un coup se sentir vraiment à la mesure du monde. Donc le Nord, pour moi, c'était le début. Bien sûr, étant un gars du Nord, je n'avais qu'une envie, c'était d'aller vers le Sud. C'est ce que j'ai fait. Étant un gars de l'Ouest, il fallait que j'aille à l'Est. Hein? Si j'avais été un Oriental, j'aurais fait le contraire. L'essentiel, finalement, c'est Nord-Sud-Est-Ouest. Hein? C'est le multivers.
Expliquez-nous ce que vous appelez la géopoétique, parce que je pense que c'est tout à fait dans la ligne droite de ce que vous venez de nous dire.
Alors, le faire en deux ou trois phrases, c'est assez difficile, mais je vais essayer de le faire. J'ai écrit un livre, Le Plateau de l'Albatros, 350 pages, pour parler de cette affaire géopolitique, mais très, très rapidement. Tout à l'heure, je parlais de l'autoroute de l'Occident, sans le définir, et je ne vais pas suivre cette autoroute depuis ses débuts chez les philosophes grecs, à travers la Renaissance, etc. Arrêtons-nous à un certain moment seulement, Hegel. Hegel en Allemagne, qui à un moment donné dit que l'histoire a un sens. L'histoire a un sens. L'histoire mène quelque part. L'histoire est rationnelle. Et tout le monde était convaincu au XIXe siècle qu'il suffisait de continuer sur la même route, sur la même autoroute, pour arriver à quelque chose de bien. Si on était bismarckien en Allemagne, c'était le plus grand État, l'État le plus puissant. Si on était marxiste, dans une idéologie marxiste, c'était un grand État, un très grand État, qui aurait pour mission de mettre fin à tous les États. Si on était libéral au sens anglais ou français, par exemple, ou suisse, c'était arriver au bonheur du plus grand nombre, au bonheur du plus grand nombre. Et le 19e siècle a vécu là-dessus, une très grande partie du 20e a vécu là-dessus, et tout d'un coup, patatras, à partir des années 80 du 20e siècle, personne n'y croit plus. Personne. Personne. Il ne s'agit pas de philosophe, il ne s'agit pas de poète, il ne s'agit pas d'analyste de la culture. Plus personne n'y croit, d'où un énorme désarroi, d'où un creux dans nos sociétés, un creux immense, tellement immense qu'il n'arrive même pas à s'exprimer, sauf par des violences qu'on retrouve dans le journal quotidien. Il y a un désarroi très, très, très profond. Donc, il y a un problème culturel énorme. Le problème aujourd'hui, c'est la culture. Mais c'est un mot extrêmement difficile, c'est un des grands mots de nos langues. Difficile de savoir exactement de quoi il s'agit. Mais la géopolitique a pour but, je parle de son but là, d'ouvrir un nouvel espace culturel. Et ces références premières sont celles que j'ai mentionnées en passant dans un autre contexte tout à l'heure, Nietzsche et Rimbaud. Nietzsche qui quitte cette autoroute en disant « Frère, restez fidèles à la terre », ça c'est le côté géo. Et Rimbaud, « Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres ». Et Rimbaud qui dit à propos de cette idéologie du progrès avec P majuscule, qu'il suffisait de construire de plus en plus d'usines, de détruire de plus en plus de forêts, de produire de plus en plus de choses, et on arriverait au bonheur, je disais bien « Personne n'y croit plus », Rimbaud disait « À propos de ce chemin du bulldozer, pourquoi ne tournerait-il pas ? Donc, à partir du bulldozer, moi je vois la possibilité d'un champ nouveau qui peut s'ouvrir aujourd'hui. À partir d'esprits comme Nietzsche et Rimbaud, mais aussi à partir de travaux faits depuis quelques années en science, en pensée, en philosophie si l'on veut, et aussi en poétique. Et je vois la possibilité d'un champ de convergence. Et je l'appelle ça géopoétique, parce qu'il me semble que quand on regarde les cultures du monde, et on peut aujourd'hui, ça c'est un de nos grands avantages. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, chacun, chacune d'entre nous peut avoir accès à toutes les cultures du monde. Il y en a eu à peu près 35 depuis le début de l'humanité. Et on peut en avoir une connaissance assez profonde. Au centre de toute culture vivante, vous avez une image, un motif central. Au Moyen-Âge, c'est la Vierge Marie et le Christ. Chez les Grecs, c'est l'agora où on discute politique. Il y a toujours un centre. Qui est à la fois le motif central et motivation. Moi, je me suis demandé quel peut être le motif central pour nous aujourd'hui dans le monde entier, parce qu'il faut poser quand même les choses au niveau mondial, et je pense, ou du moins c'est ma proposition, que c'est la terre même sur laquelle on essaye de vivre, et sur laquelle on a vécu très mal à cause d'idéologie, à cause de religion, à cause de système. En général, l'homme a vécu soit transcendantalement, soit horizontalement vers un but. Ça allait être toujours mieux demain, les lendemains allaient chanter, etc., etc., etc. Tout ça, c'est fini. Désarroi. Moi, je dis peut-être qu'on pourrait commencer à vivre en cercle concentrique, autour de là où on est. Ni vertical, ni horizontal, mais en cercle concentrique et en prenant son temps. Ça, c'est pour le côté géo. Pour le côté poétique, poétique, ça me semble un mot absolument central, un mot encore horriblement mal utilisé la plupart du temps, soit sentimentalement, soit d'une manière intellectualiste, et ni l'une ni l'autre n'est la bonne manière. Mais encore une fois, si vous regardez les cultures, au centre des cultures, vous avez une poétique. Pour les Grecs, c'est la poésie d'Homère. Tout le monde connaît la poésie d'Homère, le paysan dans son champ, le philosophe dans son cabinet. Tout le monde se réfère à la poésie d'Homère. En quelque sorte, la poétique d'Homère, la poésie d'Homère, baigne de ses eaux le plateforme politique. Et sans ces eaux-là, la plateforme politique se dessécherait. L'être humain est un être de langage, quoi. Donc il s'agit de trouver le langage le plus adéquat, poétique. Que ce soit en prose, je ne suis pas en train de parler de faire des vers, poétique. Encore une fois, dans les cultures vraiment vivaces et qui ont vécu, prenons la culture chinoise, puisqu'on en a parlé rapidement tout à l'heure, au centre de la culture chinoise, vous avez un livre qui s'intitule « Le livre des Odes », et ce livre véhicule le vent des territoires. Et si vous prenez, et j'arrêterai là les exemples, je pourrais faire presque le tour du monde des cultures, mais si on s'arrête à une culture primitive, enfin, je ne dis pas ce mot, je ne prononce pas ce mot péjorativement, bien sûr, ça veut dire culture première, une des premières, disons paléolithique ou néolithique, au centre de cette culture, vous avez le chaman qui concentre les énergies psychiques de la tribu et qui fait ses poèmes, qui fait ses chants. Donc au centre de toute culture, il y a une poétique. Je viens de parler de géo. Là, je viens de parler de poétique, géopoétique, c'est ça.
Merci.
Vous pouvez l'applaudir.
Bien, écoutez, je vous propose maintenant que vous puissiez poser des questions. Pour le faire, il y a deux micros qui doivent circuler, je pense, de part et d'autre de cette salle. Vous n'hésitez pas à vous manifester, vous levez la main et vous posez votre question à l'un ou à l'autre. Qui veut bien commencer ?
Vous avez partagé beaucoup de choses ce soir. Y a-t-il quelque chose sur quoi vous n'êtes pas d'accord du tout ?
Dites-nous.
Je ne vois pas tout de suite. Hein.
Non.
On va essayer de trouver quelque chose quand même.
Non, je crois
à toi d'abord.
Je crois que ce n'est pas du tout la peine de chercher un terrains de discorde, parce que les choses qui nous rapprochent sont infiniment plus importantes. Il y a un écrivain chinois de l'antiquité chinoise qui disait « Si vous considérez le foie et la rate par leurs différences, ils sont plus distants ou elles sont plus distantes que les villes de, je ne sais pas, de Yulang ou de Yue, mais si vous les considérez par leur ressemblance, elles sont une. » Alors moi, ce qui m'intéresse quand je rencontre une personne qui exerce le même métier que moi, c'est plutôt de trouver des points de confluence que des diversions. Ben, peut-être qu'on ne plante pas les mêmes fleurs dans nos jardins, ça c'est bien possible. Mais je n'irai pas chercher beaucoup plus loin, parce qu'au fond, ça ne m'intéresse pas tellement.
Et vous ?
Oui, peut-être que le... C'est vrai qu'il y a une tendance, et c'est une tendance presque journalistique de nos jours, de vouloir chercher toujours le désaccord. Vous êtes en mode, hein, ça fait partie du métier, quelquefois, hein, de trouver le point de désaccord. Peut-être que la question n'est pas là, accord, désaccord. Moi, je suis pour des unités complexes, justement. Et dans une unité complexe, il peut y avoir convergence et divergence, c'est plus intéressant.
Merci. Autre question, on vous apporte un micro tout de suite.
Bonsoir. Il y a quelque temps, j'ai entendu une interview devant la radio, et c'était une interview entre un jeune journaliste et une personne d'un certain âge. Et à la fin, il a dit, écoutez monsieur, vous avez maintenant 90 ans, vous êtes un vieux monsieur. Puis il y avait un petit silence et la personne a dit, écoutez, vous vous trompez. Je ne suis pas vieux, je suis âgé. Alors le journaliste, il a dit, quelle est la différence? Alors il a dit, écoutez, c'est très très simple. Les vieux n'ont plus de curiosité. Alors c'est à vous de choisir et j'aimerais bien savoir si vous choisissez pour la curiosité, ça va vous amener où? Bientôt.
Merci madame.
Moi, c'est à nous deux que vous posez la question. Ouais. Non, parce que moi, je suis pas plus âgé que lui, je suis plus vieux que lui. Mais non, bien sûr que tant qu'on peut maintenir la curiosité, et ça on peut le faire tout à fait à l'état sédentaire, eh bien ça rend simplement la vie possible. Quand on en arrive à avoir un dégoût de tout et qu'on n'a plus, par exemple, d'attention aux autres, aux couleurs dont on parlait tout à l'heure, autant se trancher tout de suite la gorge, tout de suite. Non, alors bien sûr, c'est une question qui n'a qu'une seule réponse. Positive.
Moi, je préfère au mot âgé le mot vieux. J'aime beaucoup le mot vieux. Et j'espère pouvoir dire un jour que je suis très vieux, très très vieux. Hein? C'est un mot vivant, vieux. Âgé, c'est arithmétique. Un peu. Vieux, c'est vivant.
Il y a une toute dernière réaction là-bas.
Pour la fin, je vais dire qu'au Zaïre, on appellerait ces vieux des jeunes gens de longue date.
Merci. Bon, je crois que c'est une excellente conclusion de cette soirée. Je vous rappelle que c'était Plume en Liberté. Je vous demande d'applaudir mes deux intervenants.
Au micro de Jean-Philippe Rapp, c'était Kenneth White et Nicolas Bouvier. Une rencontre enregistrée pendant la Fureur de Lire le 10 octobre dernier à la Salle des Eaux Vives à Genève. Plume en Liberté, une coproduction d'Espace 2 et du Crédit Suisse. Si vous désirez une cassette de cette émission, envoyez un mot à Plume en Liberté, Radio Suisse Romande Espace 2, 1211 Genève 8. La prochaine de ces rencontres sera enregistrée le 14 novembre à 20h30 au Château d'Yverdon. Ce sera une rencontre avec Jacques-Étienne Bovard, observateur satirique des mentalités romandes. L'entrée est libre comme toujours, mais il est prudent de réserver au 022 393 48 58. Merci à Jean-Philippe Rapp qui animait cette émission, à Maurice Charrière qui l'a enregistrée en public, à Yves Cour pour la réalisation. Plume en Liberté, une production d'Isabelle Ruff, assistante de production Rosemarie Creuset. Vous écoutez la radio suisse romande Espace 2 et tout à l'heure, après les informations de 17h, vous avez rendez-vous avec Parabole.